7h29, dans le cadre des Jours de la persévérance scolaire, la Direction régionale de la santé publique de Montréal révèle ce matin des données sur les liens entre la santé et le bien-être des jeunes et le risque de décrochage scolaire. J'en parle avec Mylène Drouin, qui est la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Bonjour, Dr Drouin.
Oui, bonjour, M. Arcand.
Je regardais vos chiffres. À première vue, on n'est pas surpris quand on constate que quelqu'un, un jeune, qui est en bonne santé, a moins de risque de décrocher. Quelqu'un qui est dans un milieu scolaire où il n'y a pas de violence, il a moins de risque de décrocher. Avez-vous appris quelque chose avec ces données-là?
Je pense que ces données-là viennent vraiment appuyer ce qu'on retrouve dans la littérature, mais viennent nous donner vraiment un portrait. C'est le premier portrait qu'on a à l'échelle Montréal qui met en lien toutes ces variables-là, que ce soit la santé mentale du jeune, son estime de soi, ses habitudes de vie et tout le soutien social qu'il a en lien avec ses risques de décrochage. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, on a fait une étude régionale, mais cette étude-là avait été faite auprès de plus de 13 000 enfants de 6e année primaire. Et donc, dans chaque territoire montréalais, on a un portrait détaillé de ces facteurs-là, ce qui permet actuellement, il y a une mobilisation à l'échelle locale pour que l'ensemble des partenaires autour du jeune puissent voir sur quels facteurs agir en priorité pour amener, dans le fond, les jeunes à avoir un environnement qui va favoriser leur réussite éducative.
Il y a combien de jeunes dans le portrait régional qui, selon vous, là, sont à risque de décrochage?
Le portrait régional, c'est sur deux. Donc, il y a une enquête qui a été faite en sixième année primaire, puis on voyait que déjà en sixième année primaire, qui est quand même assez jeune, c'est 5% des jeunes. Donc, c'était 700 jeunes qui étaient à haut risque. Et évidemment, il y avait un gradient là important en lien avec la défavorisation. Donc, c'était 8% chez les jeunes de milieu défavorisé, contrairement à 2% chez les jeunes de milieu favorisé. Et au secondaire, ça augmente à 14% le nombre de jeunes qui sont à haut risque de décrochage scolaire.
Ça veut dire que c'est pas juste, là, puis je pense que c'est important de le préciser, quand on parle au secondaire de décrochage, c'est pas juste à cause des méthodes d'enseignement, c'est pas juste que le jeune s'ennuie en classe, c'est que c'est finalement, appelons ça, son hygiène de vie, puis le contexte familial dans lequel il se retrouve, puis également ce qu'il vit à l'école, autre que les cours, qui l'influencent.
Tout à fait. C'est vraiment l'environnement. Est-ce que l'environnement l'amène à avoir une saine hygiène de vie, comme vous dites? Est-ce qu'il y a le soutien social nécessaire, à la fois au niveau scolaire? Les professeurs ont certainement un rôle de modèle à jouer, mais le soutien familial est important. Puis, c'est toutes les ressources personnelles du jeune. Au-delà de ses rendements académiques, c'est comment il est capable de faire face à différentes situations de la vie. Donc, son estime de soi, son sentiment d'efficacité, sa capacité à résoudre des problèmes, son autocontrôle, son empathie. Donc, tous ces facteurs-là, au-delà du rendement scolaire, vont aider le jeune à réussir et à vouloir poursuivre son cheminement scolaire.
Ça veut dire qu'un enfant qui est dans un milieu pas très favorisé, prenons, je ne sais pas moi, dans le sud-ouest de Montréal, va avoir, en tout cas, il part avec des prises contre lui par rapport à un enfant qui est issu d'un milieu plus confortable, disons.
Tout à fait. Puis on le voit, là, sur les enfants qui ont un soutien familial plus faible, c'était 45% qui étaient à risque de décrochage contre 13% chez ceux qui disent avoir un soutien familial élevé. Mais ça renforce le message qu'autour de ces jeunes-là, il faut soutenir les familles, puis c'est l'ensemble de la communauté, le milieu scolaire, le milieu de la santé qui doit mettre ensemble les ingrédients nécessaires pour que le jeune se sente épaulé là, dans son cheminement.
Mais on a depuis quelque temps, là, puis bon, il y a votre étude aujourd'hui, il y a des médecins pédiatres qui sont sortis pour parler d'enfants qui étaient trop médicamentés. Ensuite, on a eu des chiffres sur les enfants anxieux, des enfants qui sont déprimés, qui sont stressés. La vie n'a pas l'air facile pour les enfants.
La vie, oui, mais on le sait, puis on le voit clairement que ces enfants-là qui ont soit un trouble anxieux ou un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité aussi ont des enjeux. C'est un des facteurs liés à la réussite éducative. Mais c'est les mêmes ingrédients. C'est sûr que pour certains, la médication va aider, mais c'est les mêmes éléments de soutien social, de travail sur l'estime de soi et d'adaptation aussi du contexte scolaire à ces enfants-là. On le sait que dans les mesures efficaces, c'est sûr qu'au-delà de la médication, l'école doit aussi adapter certains éléments, là, que ce soit des périodes du temps plus long pour faire les examens. Il y en a qui mettent des coquilles pour faciliter la concentration. Mais c'est clair que pour ces enfants-là, il y a une attention encore plus particulière qui doit être mise.
Qu'est-ce que vous diriez aux parents qui vous écoutent ce matin, là, puis qui ont des enfants d'âge scolaire, puis qui sont préoccupés par la réussite scolaire, puis qui se demandent quel geste poser ou quel cadre de vie donner à leur enfant pour que ça marche?
Bien, moi, je pense que chaque, puis c'est le slogan là, de la campagne des journées, mais chaque geste compte. Je pense qu'on doit valoriser les forces de nos enfants, bâtir leur estime de soi. Il y a le rendement scolaire, mais quand on parle des ressources personnelles autour du jeune, on doit, dans un monde de plus en plus axé sur la performance, essayer d'amener nos jeunes à bâtir cette estime-là et cette capacité, ce sentiment d'efficacité personnelle. Puis je pense d'aller chercher des ressources si on se sent dépourvu en termes d'accompagnement de notre jeune, soit à l'école ou même dans le milieu communautaire. Dans chaque quartier, il y a des tables jeunesse avec des organismes qui offrent du répit, de l'aide aux devoirs et tout ça. Je pense qu'il faut aller chercher les ressources pour soutenir notre enfant.
Docteur Drouin, vous êtes la directrice régionale de la santé publique de Montréal. Je profite de votre présence ce matin pour vous parler de la rougeole. Oui. Il y a eu une alerte qui a été lancée et je regardais en fin de semaine des données sur des éclosions de rougeole dans plusieurs villes américaines. Et d'abord, est-ce que vous êtes préoccupé par ces cas de rougeole?
Bien, les cas de rougeole qu'on a encore au Québec, c'est quand même sporadique. Dans les Amériques, la rougeole, c'est une maladie évitable par la vaccination en élimination. Donc, on n'a pas de... C'est très rare qu'on a des éclosions qui amènent un cas, c'est déjà un cas, c'est important, mais c'est rare qu'on a de la transmission. On arrive vraiment à contrôler de par le fait que notre population est quand même avec des hauts taux de vaccination. Par contre, on prend aucun cas à la légère parce que c'est une maladie qui se transmet qui est hautement contagieuse, qui se transmet par micro-gouttelettes. Donc, dès qu'on a un cas, je dirais qu'en termes de mesures de protection, d'enquête, on sort le gros arsenal pour être sûr qu'il n'y ait pas de propagation qui se fasse.
Parce que je regarde dans les cas américains, là, ce qu'on a constaté, c'est que les éclosions surviennent dans des quartiers ou dans des municipalités où le taux de vaccination est faible par rapport à la moyenne nationale. Et surtout, ce sont des parents qui refusent, pour des questions de principe, là, de faire vacciner leur enfant.
Oui, en effet, que c'est la plupart des cas qu'on a, c'est chez des gens qui n'ont pas été vaccinés, soit des gens qui arrivent de l'extérieur. Quand même, au Québec, ça demeure marginal, les gens qui ne font pas vacciner leur enfant. Notre couverture au Québec en 2016, pour la première dose de vaccin, c'était à 97 %. Puis pour la deuxième dose de vaccin, où là, on s'assure d'une protection, c'était 93 % de la population qui était vaccinée. Donc, on est quand même à des niveaux très élevés en termes d'immunité collective. Par contre, c'est sûr qu'on est très vigilant pour s'assurer que ces taux-là ne baissent pas. Il y a certaines communautés qui sont moins vaccinées. Et c'est sûr que là, lorsqu'on a un cas à l'intérieur de ces communautés-là, le risque de propagation est beaucoup plus important. Et là, on redouble évidemment là, de nos efforts là, lorsque ça arrive dans un contexte comme celui-là.
Parce que la plupart des gens qui refusent, il y a des questions parfois religieuses, idéologiques, mais ce qui revient souvent, puis ça a été démoli sur le plan scientifique, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est que pour beaucoup de gens, il y a un lien, par exemple, entre le vaccin ou les vaccins et l'autisme.
Ah, mais ça, c'est clairement, c'est comme vous le dites, là, ça a été démoli au niveau scientifique. C'est des choses qui ont été répandues au niveau des gens qui sont contre la vaccination. Mais clairement, là, en refaisant l'ensemble des méta-analyses autour de cette question-là, nous ont montré là, qu'il n'y avait pas de lien établi entre la vaccination contre la rougeole et l'autisme. Donc, c'est clair que ce sont des maladies qu'on ne voit presque plus. Fait que c'est clair que la population souvent a l'impression que ben, on n'a peut-être pas besoin de se faire vacciner, mais c'est quand même des maladies pour lesquelles il y a des complications sévères et qu'on a tout avantage. Là, on le sait que la vaccination, c'est une des mesures de prévention les plus coût-efficaces et les plus, en termes de vie sauvée, de morbidité sauvée. Donc, c'est clair que pour nous, on est très vigilant pour faire en sorte que nos taux de vaccination ne baissent pas notre couverture populationnelle.
Merci beaucoup, Dr Drouin.
Merci.
Merci, au revoir. Dr Mylène Drouin, qui est la directrice régionale Santé publique de Montréal.